Salut à tous, c'est L'eau à la bouche de novembre 2010, une émission mensuelle proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. L'eau à la bouche, ce mois-ci, vous emmènera à la découverte des mauvaises herbes, autrement dit les secrets du domaine de Restinclière, une sortie nature proposée par la Maison départementale de l'environnement. Reportage avec Florence Richard, animatrice au sein de la MDE. Nous parlerons d'un atelier de jardinage bio, une autre sortie proposée par la MDE avec Philippe Bambuste de l'association Layanan. Il sera également question du quatrième colloque intitulé « Garrigues, regards croisés, les pays de Garrigues, un territoire d'action » qui se déroulera le mardi 7 décembre prochain sur le site du Pont du Gard, proposé par le collectif des Garrigues et l'association Les Écologistes de Lezière. Entretien avec l'un des responsables, Manuel Ibanez. Quelques idées de sortie, notamment autour du lac du Salagou. Côté musique, ZX avec des extraits de leur dernier album intitulé Catch My Shoe. ZX en concert notamment à Gignac le dimanche 21 novembre à 18h. Bienvenue à tous, c'est L'eau à la bouche.
Pour ce mois-ci, l'émission L'eau à la bouche vous invite à découvrir la programmation automnale de la Maison départementale de l'environnement. Plus précisément, nous allons nous focaliser sur deux sorties, en particulier parmi la multitude d'animations, d'expositions, de conférences, de rencontres qui sont proposées habituellement par cette Maison départementale de l'environnement située sur le domaine départemental de Restinclière, sur la commune de Prades-le-Lez. Première sortie sur laquelle nous faisons un focus, un petit zoom, ce sont les secrets de Restinclière. Et plus précisément, nous allons, je suis en compagnie de Florence Richard, qui est animatrice environnement au sein de la MDE, Maison départementale de l'environnement, pour évoquer ensemble une sortie autour des mauvaises herbes. Bonjour Florence.
Oui, bonjour Mathieu.
Tout d'abord, quelques petits mots de présentation de la saison automnale de la Maison départementale de l'environnement. La thématique globale, c'est la nature s'invite en ville. Donc là, on fait un zoom sur l'environnement urbain. Si on doit décrypter cette thématique-là, quels sont les grands axes que vous proposez de découvrir sur cet automne ?
Donc notamment, nous avons plusieurs expositions, jardin de trottoir, où l'on peut retrouver les herbes sur les trottoirs, aux portes des maisons, un petit peu de partout, ce qu'on appelle entre guillemets les mauvaises herbes que tout le monde s'avère à arracher et que finalement elles ont un rôle, un bon rôle, puisqu'elles fleurissent par exemple un peu plus tôt, et donc pour le bonheur des abeilles. Nous avons aussi une exposition qui s'appelle Nature urbaine, qui parle de la faune et de la flore qu'on peut trouver, que ce soit en zone périurbaine, en zone suburbaine ou en centre-ville. En fonction, on trouvera des animaux ou des fleurs différentes. Par exemple, les grandes cathédrales, là, tout de suite, ce seront les pigeons. Pour eux, les cathédrales, c'est une fonction un peu de falaise avec des cavités. Donc, c'est là qu'ils vont se reproduire, notamment les faucons aussi. Voilà. C'est un peu ça que on a un petit peu brossé à l'exposition lors de cette sortie sur les secrets des racines hier aujourd'hui. C'est pour expliquer aussi que ce soit la faune que l'on peut trouver en ville, c'est une faune comme le faisan du Caucase par exemple. C'était un faisan qui était élevé notamment par Charlemagne, qui a été introduit par les Romains en Gaule, en Germanie, etc., et que maintenant on peut retrouver dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi dans les grandes villes, les ragondins? On peut trouver des perruches, les fameuses tourterelles turques, qui sont arrivées en France par les Vosges dans les années 50-60. En 66 par la Corse, voilà, donc c'est pour expliquer que cette faune et cette flore n'est pas forcément originelle, mais est venue par exportation, et par les échanges commerciaux, par bateau, par avion, par exemple, ce fameux moustique qui peut donner cette maladie, le paludisme, mais bon, qui prospère pas... forcément, puisqu'il fait, il prospère dans les villes chaudes, et il fait pas forcément chaud.
L'idée, globalement, c'était de dire que la ville a balayé la nature pour s'implanter, pour construire, pour développer l'activité humaine, et que donc, a priori, en ville, on ne retrouverait pas la nature. Et là, c'est le constat inverse, c'est de dire non, la nature y est revenue, et peut-être même qu'elle mérite notre attention, du moins qu'on la regarde et qu'on s'y intéresse.
Elle y est pas revenue, elle y était déjà, au néolithique, déjà on trouvait du plantain, des orties, des rats et des chats en ville. Donc, en ville on trouve toujours du plantain, bon pas forcément des orties mais des chénopodes, c'est la même famille. On trouve des rats et des chats aussi en ville. Jusqu'à présent, on balançait des pesticides, herbicides, puisque c'était entre guillemets des mauvaises herbes, et puis ça ne faisait pas joli de voir sur ces trottoirs ces fleurs, ces herbes comme ça qui prospéraient, alors que au contraire, il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs, c'est pas uniforme, hein, c'est pas des fleurs plantées, alignées. Et c'était pour cette sortie, c'était un peu pour avoir un autre regard sur entre guillemets les mauvaises herbes, hein, ou les fleurs, que ce soit les pissenlits, que ce soit les crépis de Nîmes, que ce soit les mauves, chénopodes, etc. Ce sont des fleurs sur lesquelles on peut poser un autre regard, et non pas forcément un autre regard. Ah, il faut les arracher.
Oui, jusqu'à hier, en fait, cette nature en ville, on l'envoyait comme gênante ou comme à faire disparaître, à nettoyer, à enlever. Et là, c'est aussi le mouvement inverse, de dire que si on laisse faire la nature en ville, peut-être que ça peut embellir cette ville.
Oui, c'est une diversité, notamment une diversité aussi de faune.
Donc ce matin, ici, sur le domaine de Restinclière, vous avez proposé au public une sortie intitulée « Les secrets du domaine de Restinclière, peindre les mauvaises herbes, quelle surprise !» C'est une sortie qui est donc proposée par cette maison départementale de l'environnement, où l'idée, c'était de partir, le point de départ, c'était l'exposition sur cette nature en ville. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ?
Après, on est allé, on a fait un petit peu le tour du château à la découverte des fleurs, des plantes qu'on peut trouver sur les vieux murs. Donc, notamment, on a abordé l'orpin de Nice, on a abordé la vigne vierge, on a abordé le lierre qu'on s'efforce souvent à couper parce que on pense qu'il étouffe les arbres et non, au contraire, hein, il peut amener une faune et puis même en perdant ses feuilles, parce que le lierre perd ses feuilles, je crois, tous les 6 ans, on peut apporter de l'humus à l'arbre. Donc j'ai donné plusieurs informations sur ces herbes, sur ces plantes. On a vu aussi le nombril de Vénus, on a vu le cétérac. C'est une petite fougère.
Du moins, toutes ces plantes sont qualifiées de mauvaises herbes. Pour le public, ce sont quoi les arguments pour dire ça, c'est une mauvaise herbe ?
Pour le public... le public qui était avec moi, pour eux, c'était pas des mauvaises herbes. Parce que déjà, ils étaient sensibilisés, hein, là-dessus. Ce sont des personnes qui ont des balcons, des jardins et qui laissent prospérer ces fleurs et ces plantes. Hein. On a vu plusieurs choses. Et en donnant des informations et puis disant qu'ils ont chacun ou chacune un rôle, hein, ça peut faire changer le regard sur ces plantes. Entre guillemets, invasive ou mauvaise herbe.
La définition plus générale du terme mauvaise herbe, c'est ça, c'est plante invasive, ou du moins qui vient dans un milieu dans lequel on n'attend pas à la retrouver ?
Non, je pense que mauvaise herbe, ça veut dire, c'est plutôt le côté esthétique, hein. À mon avis, hein, personnellement, quand on dit que c'est une mauvaise herbe, c'est plutôt côté esthétique, hein. C'est-à-dire que ça ne fait pas joli, donc il faut alors que il y a une diversité, on a vu les pâquerettes, on a vu ce qu'on appelle les bélis pérennis ou sylvestris. On a vu plusieurs couleurs aujourd'hui. On a vu du rose, du blanc, du jaune et vert herbe entre guillemets. Je pense que c'est une notion de dynesthétisme. Alors que si on peut se dire, si c'est pas rectiligne, c'est pas toujours carré, parce que la nature c'est pas comme ça, hein, c'est pas rectiligne, carré, comme les alignements d'arbres qu'on peut trouver en ville, etc. On peut trouver ça joli finalement et se dire c'est coloré, c'est toujours vert, le lierre est toujours vert quand les feuilles des arbres perdent, quand les arbres perdent leurs feuilles et qu'il y a le lierre autour, ça peut faire plusieurs couleurs automnales. Ou la vigne vierge aussi qui a des couleurs rouges, hein, très, très rosacées rouges, c'est magnifique. Hein.
Donc le mauvais sort que l'on a réservé pendant des années et des années à ces herbes, à ces plantes, serait dû au fait que certains trouvaient simplement qu'elles n'étaient pas belles ou du moins qu'ils ne voulaient pas les voir à ces endroits-là. Peut-être qu'après, pour tout ce qui est dans un autre domaine, l'agriculture haute, là, c'est peut-être plutôt lié au fait que le mauvais herbe, c'est celle que l'on ne souhaite pas avoir dans sa récolte. Donc là, il y a peut-être d'autres définitions possibles. Mais là, je comprends bien que sur un milieu urbain ou du moins en ville, c'est vrai que c'est l'esthétique qui fait que certains demandaient à d'autres d'enlever les herbes pour avoir des parterres nickel, entre guillemets, ou très...
Notamment à l'exposition Jardin de trottoir, il y a un panneau qui parle des herbicides et des pesticides. Ces herbes-là, ces plantes, donnent de l'humus, des sels minéraux, enrichit la terre. Donc, à partir du moment où on va balancer du pesticide ou insecticide, etc., ça va appauvrir la terre. Donc, ça a plus un effet néfaste, finalement, pourquoi les enlever dans un jardin? Est-ce que ça gêne forcément? Pouvons-nous avoir une pelouse de une pelouse colorée avec plusieurs fleurs sauvages, ou préférons-nous avoir une pelouse très verte, pelouse irlandaise ou d'Angleterre bien verte, auquel il faudra y ajouter de l'eau tous les matins et tous les soirs l'été? Je sais pas, il faut réfléchir à tout ça.
Est-ce que accepter les mauvaises herbes, ce n'est pas aussi accepter une certaine idée du désordre en ville ?
On ne peut pas dire que la nature est en désordre, hein, mais effectivement, la nature, c'est pas un désordre, mais elle pousse dans les friches, elle pousse dans les parkings, dans des carrés de trottoirs, au bord des portes, elle pousse un peu de partout. Et effectivement, c'est pas une notion que l'humain a. Je ne sais pas si vous voyez en ville, tout est bien. Tout est bien rectiligne, hein. Toutes les haies sont bien rasées, bien coupées, les arbres aussi, les fleurs aussi, ce sont les mêmes, hein, hein. Vous allez voir forcément les mêmes fleurs, notamment. Alors maintenant, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur les ronds-points, on laisse ces fleurs sauvages. Hein. Et c'est vrai qu'en automne, quand on voit ces tas de pâquerettes, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Hein. C'est coloré, c'est beau.
C'est magnifique, c'est le terme que je retiens. Donc dans le cadre de la sortie qui était proposée ce matin ici au domaine de Restinclière, on l'a dit tout à l'heure, point de départ par le biais de l'exposition, ensuite une visite, une sortie en extérieur pour découvrir sur les murs du château les mauvaises herbes du domaine de Restinclière, entre guillemets, voilà. La fin de la sortie était plutôt en peinture.
Oui, en fait, pour que les gens repartent avec toujours une bonne idée de la fleur ou de la plante ou de l'herbe qu'on aura vue tout autour du château lors de la balade, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent un spécimen et qui peignent de façon naturaliste, c'est-à-dire avec la graine, les pétales, les sépales, la tige, la feuille. Avec le côté beaucoup plus naturaliste qu'un champ de... Là, on n'a pas peint un champ de coquelicots, de toute façon, c'est pas l'époque, un champ de pâquerettes. C'était pour... Déjà, par exemple, une dame me disait, je confonds le kénopode, hein, le kénopode blanc, qui est très bon en soupe, je dis entre guillemets, sa famille, ce qu'on appelle l'épinard, le fruit, sa famille des épinards. Elle me dit, mais je le confonds, je sais jamais si c'est du kénopode ou non. Alors elle a pris une branche, elle a pris une tige, pardon, et elle a peint notamment avec tous les détails du kénopode blanc. Et là, elle ne pourra que se rappeler que cette plante-là, c'est du kénopode blanc. Voilà. C'était une façon de qu'ils repartent au moins avec une plante donc ils pourront se rappeler.
Donc une approche par la peinture naturaliste de ces toujours entre guillemets mauvais arbres. Pour le public qui était présent ce matin, à votre avis, avec quoi ils vont repartir avec une idée précise de ce que sont les mauvaises herbes, mais pourquoi étaient-ils venus à cette sortie ? En dehors du fait de retrouver ici les plantes qu'ils peuvent avoir sur leur balcon, de pouvoir identifier sur un plan botanique des plantes qu'ils ont déjà vues et dont ils ne savaient pas le nom, pourquoi s'intéresser aux mauvaises herbes ?
Je pense que peut-être c'est par curiosité déjà. Pourquoi la maison de l'environnement parle de la nature urbaine, parle des jardins de trottoir entre guillemets, c'est pas des jardins, hein, c'est la flore que l'on peut trouver un peu de partout. Par curiosité, et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit, mais moi le lierre je le coupe quand même, hein, bien que on ait passé 5 minutes. Devant le lierre, tout en précisant que, au contraire, sur les parois de maison, il va faire un effet de climatisation. C'est vrai que il soulève les tuiles, hein, mais bon, voilà. Je pense que c'était plus par curiosité, se dire, bah oui, effectivement, moi je vois toutes ces fleurs un peu de partout. Et effectivement, à Montpellier, on en voit. Les vergerettes de Canada, là, actuellement, les inulvisqueuses, hein, c'est ce qu'on voit, sont des grandes plantes qu'on peut voir actuellement. Se dire, voilà, finalement, c'est pas une mauvaise herbe, hein, c'est une belle herbe. Hein.
Et donc un petit soupçon d'envie de changer son comportement à l'avenir.
Les personnes qui sont venues étaient déjà sensibilisées là-dessus, mais elles sont reparties. Oui, c'est vrai, effectivement, il y avait des choses qu'elles ne savaient pas forcément. Donc je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont laisser les herbes dans leur jardin, oui. Oui. Et peut-être qu'ils vont les manger aussi.
À suivre. Merci Florence.
Merci Mathieu.
Un reportage signé Mathieu Tellen, réalisé au domaine de Restinclière, situé à Prades-le-Lez, au nord de Montpellier. Musique, et puis dans un instant, nous parlerons du jardinage bio avec Philippe Bambuste de l'association Layano. Vous écoutez L'eau à la bouche, une émission interassociative liée à l'environnement, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Larzac, Radio Clapas et Divergence FM.
Vous ramassez toutes mes salades, elles étaient toutes mangées. Toutes mangées.
Ah ouais, par les limaces.
Alors je passe rien, elles n'ont pas joué, on les a mangées.
Ah, les limaces, c'est
ouais, ouais, faut mettre soit une petite barrière de cendre. Ah. Soit un piège à bière.
Ah oui.
On fait un trou au milieu des salades. On met un petit bocal dans ce que tu veux. Qu'on laisse dépasser d'un demi centimètre pour qu'il y ait accès et que la terre rentre pas dedans. Et on met de la bière. Donc préférez la bière brune.
Je te referai une
alcoolisée.
Une bière de bière.
Donc la Belfort, ça marche bien. Mais il faut changer de marque de bière quand même.
Ah
oui,
parce que
c'est... Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Elle se lasse.
Elle se lasse. Donc après, on passe à la bière japonaise. Voilà. Et en fait, et moi, je mets une tuile canal par-dessus pour éviter les effets du soleil, s'il pleut, etc., etc. Et en fait, les escargots vont aller, dès qu'il fait un peu de soleil, un peu chaud, vont aller se réfugier sous la tuile. Ils sont attirés par la levure qui est dans la bière. Mm-hmm. Ils vont tomber dedans, et voilà. Oh, et après, il faut vider ça. J'ai une autre recette très efficace, mais que vous ne ferez pas. Donc, je ne sais pas si je vous la donne. On prend 100 escargots, on les noie dans 2 litres d'eau. On les laisse macérer pendant 10 jours. on filtre, on arrose, il n'y a plus un escargot.
Oh, ah oui. Ah. Ça sent très bon.
Ça pue la mort. Le terme est dit. Mais c'est particulièrement efficace. Après, vous pouvez acheter aussi un produit dans le commerce, ça s'appelle le fer à molle.
Ah oui.
Qui est, c'est que du fer. Donc il n'y a pas de danger pour les animaux, l'écosystème. Et en fait, l'escargot ne supporte pas le fer.
Je vous propose de continuer à découvrir les sorties nature et environnement proposées par la maison départementale de l'environnement du domaine de Restinclière, ici sur la commune de Prades-le-Lez. Et nous allons continuer avec une sortie intitulée Jardin des Bio. C'est une sortie proposée, plutôt animée par Philippe Bambuste de l'association Laïagnan, que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans le cadre de cette émission L'eau à la bouche. L'objet de cet atelier, je pense globalement, était de vous aider à préparer le potager, votre potager, à passer l'hiver, histoire de pouvoir l'été prochain, le printemps prochain, avoir une récolte la plus belle possible. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors nous nous trouvons dans le jardin du château de Restinclière. Est-ce que tu peux faire une présentation de l'historique de ce jardin ?
Mais ce jardin, donc ça fait 9 ans qu'on propose des ateliers le vendredi de mars à juin et septembre-octobre sur des thèmes de saison, donc semis, plantation, entretien, connaissance un peu des maladies, des ravageurs, prédateurs, etc. Et tout ça dans une dynamique de jardinage naturel, biologique ou naturel, quoi.
La situation de ce jardin du château de Restinclière ?
C'est le jardin du château depuis toujours, hein. C'est à l'arrière du château lui-même, entouré de murs. Donc c'était vraiment un espace ici où, à l'époque, il s'occupait plus de vignes, de bouturage, de choses comme ça. Et nous, on a comme ça un bel espace qui est bien travaillé. Donc c'est un espace particulièrement bien trouvé pour le jardinage, quoi.
La nature du sol qui est ici présente ?
Alors, elle a beaucoup changé en 9 ans, parce que quand je suis arrivé, c'était une terre assez blanche et pleine de cailloux. Et on peut voir, là, même où on n'a pas mis le compost, que la terre est beaucoup plus noire, hein, plus facile à travailler, etc., etc. Donc au départ, c'était un peu, on va dire, difficile, parce que ça n'a jamais vraiment été un potager ici, quand même. Donc, petit à petit, la technique qu'on peut mettre en place améliore le sol. Et maintenant, on a un terrain qui est particulièrement propice aux légumes, aux fleurs et aux plantes médicinales, quelques arbres fruitiers, des choses comme ça, quoi.
L'usage de ce jardin, est-ce que c'est uniquement de servir de temps en temps de lieu d'atelier pour le grand public? Ou bien est-ce que les légumes qui sont produits ici sont consommés par certaines personnes?
Alors, c'est pas un jardin de production, c'est vraiment un jardin pédagogique où je reçois une quinzaine de personnes chaque mois, donc tous les vendredis, et il y a toute une partie un peu théorie, parce que bon, il faut bien expliquer aussi les choses, etc., et comprendre un peu comment ça se passe dans un sol avant de le travailler, parce que sinon on va avoir du mal. On passe la moitié du temps, on va dire, à jardiner, et l'autre moitié vraiment à aborder des thèmes qui sont plus sujets à chacun. C'est-à-dire que chacun vient avec son petit problème dans son jardin, et donc on va bien sûr semer, etc., etc. Ça, à certaines saisons et quand c'est possible, les gens vont goûter les légumes qui sont produits sur le jardin. Sinon, en général, ce sont les c'est partagé avec les employés ici. Mais c'est pas une source alimentaire de toute façon, hein. C'est pas une production, quoi. Voilà. C'est vraiment plutôt basé sur l'expérimentation, on essaye des techniques, on met en place des choses. Et puis toute la pédagogie qui doit appliquer pour bien comprendre les choses implique forcément qu'on passe beaucoup plus de temps à faire des gestes, à montrer les gestes, à appréhender un peu la façon de cultiver, etc. Et donc on n'a pas le temps de faire vraiment des grandes plantations, quoi. Et puis le but quand même ici, c'est qu'il y ait une relation directe avec les petits jardins qu'on peut trouver en ville. Donc l'objectif, c'est de se faire un petit potager, pour pouvoir s'alimenter, c'est certes, mais plus en complément et prendre du plaisir, surtout à jardiner, à manger des produits sains, quoi.
Oui, c'est de proposer un atelier qui soit relativement assez proche de celui que Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde peut faire chez lui.
Exactement, c'est tout à fait ça. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens qui viennent ici le vendredi, ils puissent reproduire rapidement dans leur jardin ce qu'ils ont appris, et donc plus voir les effets dans leur propre jardin, même si certains reviennent pour voir comment ça a poussé, la production, etc. Mais voilà, sur 15 personnes, il faut quand même pouvoir donner du temps à chacun. Et ce temps-là, il n'est pas forcément sur la production. Il est vraiment basé sur la personne, quoi.
Alors, nous sommes juste à côté du château de Restinclière. En extérieur, il fait un soleil magnifique pour cet après-midi d'automne. Si l'on devait décrire ce jardin par l'ensemble des éléments qu'il compose, je veux dire faire une sorte de panoramique de gauche à droite de ce que nous avons devant nos yeux, quel mot je te laisse, quoi, disons que je te laisse faire la description, puisque tu es quand même celui qui le connaît, de nous deux, qui connaît mieux ce jardin que moi.
Ouais, c'est sûr. Ici, le mot d'ordre, c'est biodiversité. Voilà, bon, alors c'est pas parce que c'est à la mode, etc. Ça fait longtemps qu'on fait ça, mais ici, il est mis en place des végétaux méditerranéens d'ornement, hein, qui ont aussi un effet protecteur dans le potager. Et donc, par exemple, ici, on a 10 mois de fleurs par an, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'insectes. Donc, on a des plantes méditerranéennes, donc adaptées à notre climat, à notre région, qui demandent peu d'entretien, peu d'eau, mais qui ont une fonction ici d'hôte pour les insectes. Ensuite, on a par exemple une spirale en pierre sèche là-bas, petite fabrication avec des aromatiques, etc., où on a inséré des nichoirs. Donc voilà, on essaie de recréer la plus grande biodiversité possible pour que on valorise l'existant. Et l'existant, ben, pour qu'il existe, il faut qu'il puisse être présent. Et pour être présent, on aménage le plus possible de petits recoins, de plantes spécifiques à certains prédateurs, etc., quoi.
Donc par exemple, les fleurs là que j'ai à ma gauche, elles vont jouer le rôle de refuge pour certains insectes.
Voilà, donc c'est les astères qu'on appelle les vendangeuses. Et on peut s'en approcher, on verra qu'il y a encore beaucoup d'abeilles, hein, qui viennent butiner ces fleurs. Et c'est vraiment une époque où ce type de fleurs va prendre le relais des fleurs d'été et va permettre, oui, exactement, de conserver le potentiel plus ou moins naturel de régulation, on va dire, du jardin, de le conserver sur place.
Et cette zone refuge n'est pas uniquement concentrée dans un unique lieu du jardin, puisque là, juste devant moi, il y a également des fleurs, et au loin, sur ma droite, il y a également d'autres espaces qui, je suppose, jouent aussi ce lieu de refuge.
Ouais, exactement. Déjà, personnellement, pour un côté esthétique, j'aimerais pas trop des gros massifs de fleurs à un endroit, et puis tout bizarre, enfin, tout nu autour, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est dispersé dans tout le jardin. D'ailleurs, il y en a entre les légumes, hein, entre les planches de légumes, etc. Parce que bah, toute la superficie du jardin rentre dans cette potentialité, hein, de vie, qui fait qu'après, ici, on apporte quasiment aucun traitement, quoi. En tout cas, aucun insecticide.
Là, nous sommes dans les mois d'automne. Alors, devant moi, je vois des restants de plantes de tomates, plus ou loin des plantes qui sont déjà mortes et qui vont disparaître, d'autres qui sont encore en fleurs. Durant ces mois d'automne, que peut-on retrouver comme légumes et comme fleurs dans les jardins ?
Alors, bon, les fleurs, c'est un petit peu plus limité, mais on a encore donc les astères qui sont en fleurs actuellement. On a encore des romarins là-bas, parce que suivant les variétés, bon, ça peut fleurir assez tardivement. Et puis, on a les œillets d'Inde, les soucis qui sont encore en fleurs. Là-bas, on a une sauge ananas. Voilà, on a pas mal de végétaux quand même qui sont encore en place, qui vont encore perdurer quelques semaines. Et si on a un hiver doux, ils peuvent même peut-être passer l'hiver et être à nouveau présents au printemps. Après, au niveau légumes, c'est légumes de saison. Ça va être des choux, des épinards. Le mois dernier, on a mis les poireaux, les fèves qu'on met maintenant. Aujourd'hui, on va faire une plantation d'ail, oignons, échalotes. Hein. On va voir un petit peu aussi tout ce qui est marcottage, donc comment aussi multiplier les plantes d'une façon assez simple, sans faire de boutures, etc.
Alors là, il faut être plus précis. Marcottage, alors moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Donc si tu en fais une définition plus précise, qu'est-ce que le marcottage ?
Le marcottage, par exemple, on a un pied de lavande, bon, qui sont des lavandes vraies, donc des lavandes officinales, qu'on va buter légèrement avec de la terre pour les protéger un peu au niveau racinaire des froids de l'hiver. Et avant ça, on va gratter les légèrement avec un couteau l'écorce du bas des branches. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura mis la terre sur ces écorces un peu grattées, un petit système racinaire va sortir. Et au mois d'avril, on n'aura plus qu'à prendre son sécateur, séparer donc notre marcotte, en fait, qui est un peu comme une bouture, du pied mère. Et dès le printemps, on aura des nouveaux pieds, on aura multiplié les pieds de lavande.
Voilà. C'est une technique qui marche sur quel type de plantes ?
Quasiment tout type de plantes, surtout les ligneux, donc c'est les plantes qui font du bois. Les herbacées, là ce sera plus du bouturage, mais ça peut s'appliquer aussi sur des arbres. On peut très bien faire du marcottage aérien sur des branches d'arbres pour multiplier un arbre dans lequel on est content des fruits ou de la résistance aux maladies ou des choses comme ça, quoi.
Alors là-bas sur ma droite, je perçois ce qui doit être des plantes, des végétaux de la famille du chou, également des blettes. On parlait tout à l'heure de ces plantes qui arrivent ici à l'automne dans les jardins. Pourquoi ces plantes sont mieux adaptées que d'autres à survivre durant ces mois d'hiver ?
C'est leur cycle de vie demande des exigences pédoclimatiques un peu particulières. Donc en fait, c'est des plantes qui ne résisteraient pas à la chaleur, par exemple, pendant l'été. Tout ce qui est chou-fleur, chou-rouge, etc., elles ont besoin d'une température assez basse. Donc voilà, c'est des plantes de saison. Les fèves, pareil, elles ont besoin aussi de températures peu élevées. Donc voilà, c'est tout à fait la saison de planter ou de semer ce genre de végétaux. En sachant qu'on a quand même dans le sud un hiver assez... assez clément quand même pour les plantes, hein. Et donc ici il n'y a pas d'arrêt de saison au niveau potager, hein. Ici on cultive toute l'année et d'ailleurs les planches qui ne sont pas cultivées ici sont quand même préparées. On a des engrais verts, on a du mulch, c'est-à-dire qu'on a mis du compost sur certaines parcelles qu'on va recouvrir de paille ensuite. Donc voilà, ce qui est important, c'est de laisser la terre le moins nue possible, hein, donc soit en végétation, soit vraiment protégé contre les froids et les vents d'hiver, quoi.
Alors quand je suis arrivé tout à l'heure, tu étais en train de remuer du compost qui était en dépôt dans une partie au fond du jardin. L'automne, c'est aussi la saison pour retravailler le sol, le repréparer pour une nouvelle saison l'année prochaine.
Exactement, c'est-à-dire que le compost il est assez frais, donc on le dépose sur le sol en couche assez épaisse quand même, j'en mets jusqu'à 10 cm, et puis on laisse passer l'hiver, puisque sous le compost il y a toute une microfaune qui va se mettre en place, et pour que le compost soit assimilable, enfin les éléments nutritifs soient assimilables par les plantes, il faut un certain laps de temps, quoi. Il faut que la structuration du sol assimile les éléments, etc., se mélange par l'argile et tout ça. Donc là, c'est le moment vraiment de préparer certaines planches de culture pour le printemps ou le début d'été qui vont accueillir des végétaux plutôt, plutôt gourmands. Voilà.
La nature du compost qui était utilisé ici, qu'est-ce que vous y avez mis antérieurement ?
Alors ça, c'est du broyat, donc du broyat de branches, de ligneux, etc., avec du fumier. Donc moi, j'essaie de privilégier au maximum le fumier de mouton, parce qu'ici, il y a encore quelques bergers, donc on essaie d'aller chercher les éléments le plus près possible. Et puis de la paille, des matières sèches, et puis un petit peu de terre de jardin pour l'argile, un peu des petits compléments avec, nous, on utilise pas mal l'ortie. Ici, on utilise la consoude de Russie, qui est une plante engrais. Et puis, des préparations à base de camomille, voilà, bon, qui se rapproche un petit peu de la biodynamie, mais qui va dynamiser les composts et surtout en faire quelque chose de très nutritif et de vivant.
Alors, si l'on passe aussi tant de temps dans les jardins, c'est pour, entre guillemets, notre appétit culinaire, puisque l'on cultive les légumes et les plantes pour pouvoir les consommer ensuite. Je suppose que dans le cadre de vos ateliers, vous parlez aussi gastronomie, de la manière de cuire, de cuisiner les légumes d'un jardin. Quelle serait ta recette favorite pour les mois d'hiver qui arrivent ?
Ma recette favorite, moi j'adore les blettes, les poireaux, tout ça. Moi j'adore les gratins pour l'hiver. Donc tout ce qui est vert, les jeunes feuilles de salade, les épinards, les feuilles de blettes, hein, avec bien sûr toujours un peu d'ail et qui rentrent complètement dans les compositions de notre cuisine méditerranéenne. Et voilà, des gratins, des petites potées de choux, des choses comme ça. Et on propose d'ailleurs des ateliers avec un de mes collègues sur la transformation, que ce soit plantes, fleurs sauvages ou cultivées, pour faire des petits encas, pour essayer d'impressionner un peu ses amis avec des choses très simples, qui sont faites souvent avec des produits du jardin dont on n'aurait pas idée d'utiliser, quoi.
Le jardin est donc plein de choses à découvrir, à redécouvrir, encore à vivre et à goûter sûrement. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'activité de l'association Layanan, ou du moins participer à des ateliers autour du jardin et jardinage bio, comment se renseigner et prendre contact avec toi ou bien l'association Layanan ?
On a un site internet qui s'appelle Layanan. Il suffit de taper Layanan sur un moteur de recherche et on trouve tout de suite, qui n'est pas forcément très à jour parce qu'on est beaucoup sur le terrain et on n'est que trois permanents dans la sauce. Mais là, on est en cours de mise à jour, on est en fin d'année, c'est un peu tard, mais en général, il y a les programmes de tout ce qu'on peut proposer, plus un peu des bilans d'activité sur ce qu'on peut créer dans les écoles ou sur d'autres manifestations, quoi. Et par rapport au jardin du château de Restinclière, là, il faut contacter la maison de l'environnement. Et en général, il faut s'inscrire quand même aux ateliers parce que je ne prends pas plus de 15 personnes, ce qui est déjà c'est déjà pas mal, puisque comme on a de la pratique, bon, tout le monde n'est pas obligé de pratiquer, hein, y a des gens qui préfèrent observer et écouter, mais je trouve assez intéressant de pouvoir montrer les gestes et que les gens, parce que souvent regarder c'est une chose, mais quand ils sont face à leur jardin c'est autre chose, donc le fait de faire voir le geste, le reprendre, etc., bon voilà, ça c'est important. Et donc contacter la maison de l'environnement pour ces ateliers où on peut s'inscrire pour 4 séances. Donc, mais les ateliers finiront là la semaine prochaine.
Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, ce sera pour l'année prochaine. Merci à toi Philippe.
Merci beaucoup. Everything is finished here. Forever I am done, he said. I quit, I'm through it. All of this I'm up and far away. What if I had an accident? Everyone would focus on my well-being for today. Forget all I've done wrong.
Je vous propose de terminer cette émission L'eau à la bouche avec l'association Les Écologistes de Lézières qui proposeront le mardi 7 décembre 2010 sur le site du Pont du Gard, sur sa partie rive gauche, le 4e colloque Garrigue, regard croisé. Cette année, le thème abordé, ce sera le pays des Garrigues, un territoire d'action avec un point d'interrogation. Côté organisation, ce colloque est proposé par le collectif des Garrigues et l'association Les Écologistes de Lézières, ainsi que le site du Pont du Gard. Je suis avec Manuel Ibanez, qui est responsable du projet Garrigue au sein de l'association Les Écologistes de Lézières. Tout d'abord, une présentation de cette association et de son travail dans le domaine de l'environnement et de l'éducation à l'environnement.
Bonjour, donc l'association des écologistes de Lézières, c'est avant tout plusieurs secteurs d'activité, notamment un secteur autour de l'animation. Donc là, on était il y a peu à la fête de la science de la Villette, et puis on a tout un tas de nouveaux projets scolaires qui ont démarré depuis peu. C'est aussi de l'expertise de milieu naturel. Donc là, actuellement, on est en train de finaliser des grosses études, notamment des grosses études comme l'inventaire des zones humides sur tout le bassin versant du Lez et de la Mausson. C'est également des formations, des éditions. Donc là, on travaille notamment sur un ouvrage qui devrait paraître début 2011 sur les stratégies des plantes. Et comme depuis plusieurs années, toujours le projet Garrigue, une grosse préoccupation autour de l'avenir des Garrigues gardoises et roltaises, qui nous prend actuellement pas mal de temps et d'énergie.
Votre local est situé près de la maison départementale de l'environnement à Prades-le-Lez, sur le domaine de Restinclière. Et je crois savoir que vous avez également déménagé il y a peu.
Oui, tout à fait. Là, actuellement, les locaux sont en travaux. Donc, on est toujours au domaine de Restinclière. On a juste changé d'aile, de, du château, enfin du domaine, et on retournera dans nos anciens locaux qui sont maintenant qui seront réaménagés l'an prochain.
Alors on évoque ensemble le colloque Garrigue Regard Croisé, qui est peut-être une partie du projet Garrigue, qui est porté par l'association Les Écologistes de Lozère. Un récapitulatif ou un historique de ce projet dont tu es le responsable.
Donc le projet Garrigue, c'est né de déjà depuis plusieurs, donc 35 ans qu'existe l'association des écologistes de Lozère. Nous, on a toujours travaillé à mener du public dans l'arrière-pays languedocien, gardois et héraultais. On a vu les paysages changer très rapidement, périurbanisation, abandon agricole, reforestation. Ça nous a posé beaucoup de questions et l'idée du projet Garrigue, ça a été d'aller rencontrer le public, les habitants, les usagers de ce territoire des Garrigues gardoises et héraultaises pour leur demander déjà leur avis, comment ils perçoivent ces changements et comment on pourrait construire ensemble un peu un avenir de ce territoire souhaité, on va dire.
C'est un projet qui a débuté il y a combien d'années ?
Depuis 2006 notamment, avec la tournée d'une exposition itinérante « Mais où sont passées nos garrigues ?», qui est actuellement, qui vient de passer du côté de Montpérou, Gignac, au mois d'octobre dernier. Et cette exposition a tourné depuis 4 ans, du coup, et a permis de rencontrer plus de 14 000 personnes. Et de rencontrer énormément d'associations, de structures qui sont très intéressées par ce sujet de l'avenir des garrigues. Et du coup, l'ensemble de ces personnes, de ces structures, ont monté pour l'instant une sorte de collectif des garrigues, collectif pour l'instant assez informel, mais qui lance des projets, des nouveaux projets justement comme l'Atlas des Garrigues, qui a pour but de rassembler toutes les informations, les données qui existent sur ce territoire pour en faire un ouvrage qui devrait paraître en 2012, et aussi l'organisation de ce nouveau colloque et quatrième colloque de Garrigues Regard Croisé.
Tu parles de collectif des Garrigues, c'est quoi? C'est un statut associatif? C'est uniquement un regroupement de personnes, de structures?
Voilà, pour l'instant, c'est seulement un regroupement de personnes et de structures intéressées par ce sujet de l'avenir des garrigues qui se rassemblent régulièrement pour mettre en commun leurs connaissances et leurs compétences au service de cette mise en débat de l'avenir du territoire. Rien n'empêche dans l'avenir d'imaginer une structuration associative, par exemple.
Voilà donc 4 ans que tu travailles sur ce projet Garrigue. Alors on parle de la Garrigue ou plutôt des Garrigues. Après 4 ans, quelle définition tu donnerais de ce terme Garrigue ?
Alors y a la Garrigue au niveau écologique, donc cette végétation basse adaptée à la sécheresse qu'on va trouver sur nos collines calcaires. Et puis il y a aussi le territoire des Garrigues, c'est-à-dire tous ces espaces qu'il y a dans le Gard et dans l'Hérault entre les plaines littorales et les Cévennes. Et donc ça, c'est les Garrigues, parce que au milieu il y a aussi de l'agriculture, de la viticulture, il y a des zones de plaine, des zones de plateau, etc. Donc ça, c'est l'ensemble, c'est les Garrigues, c'est le territoire des Garrigues.
Tu évoquais également une exposition qui a été à l'initiative, ou du moins au début de ce projet Garrigues, entre l'exposition telle qu'elle était il y a 4 ans et telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans sa présentation du territoire des Garrigues, du moins de tout ce que l'on peut voir sur les panneaux de cette exposition ?
Oui, l'exposition est toujours en évolution, parce qu'en fait c'est une exposition qui a pour objectif à la fois de montrer les connaissances, les savoirs recueillis, mais elle a aussi pour objectif de collecter des savoirs et des connaissances à chaque fois qu'on passe sur un territoire. Donc au fur et à mesure, elle grossit, quoi. Elle s'agrémente de nouvelles connaissances et de nouvelles représentations, etc., de l'espace. Donc elle est en constante évolution à ce niveau-là.
Un autre outil visible de ce projet Garrigue porté par l'association Les Écologistes d'Eusière Saison, c'est donc régulièrement un rendez-vous donné sur le site du Pont du Gard. Un rendez-vous qui s'intitule « Colloque Garrigue au pluriel, virgule, regard croisé ». C'est le quatrième colloque sur les éditions précédentes. Quels avaient été les thèmes abordés ?
Alors, juste une petite précision, ce colloque, en fait, on en fait un colloque chaque 2 ans. Une fois dans le Gard, une fois dans l'Hérault. Donc les précédents colloques avaient pour objectif de réfléchir d'abord sur l'évolution des paysages, essayer de rassembler les connaissances sur l'évolution du paysage. Ensuite, on a fait un colloque à Saint-Martin-de-Londres en 2008 qui était beaucoup plus sur quelle gestion, comment gérer des espaces de garrigues. Aujourd'hui, on va plus loin, notamment du fait que ce quatrième colloque est porté par un collectif. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que ce territoire des garrigues peut être un territoire d'action, un territoire même de projet. Et du coup, il a pour objectif d'élargir un peu le public, non pas seulement à ceux qui sont passionnés de garrigues, mais aussi aux gestionnaires, aux élus, notamment au grand public, mais aussi aux institutions, aux collectivités territoriales, pour savoir si dans quelques années, on peut imaginer vraiment un projet collectif sur ce territoire qui soit porté par tous, quoi.
Est-ce que, à la différence des précédents colloques, qui étaient peut-être plutôt sur un constat, sur des observations, celui-là s'inscrit vraiment dans le terme, dans cette envie d'agir sur le territoire des garrigues? Je veux dire, est-ce que entre hier et demain, avec ce colloque, vous êtes en train de faire la transition entre un constat et des observations, et puis le passage à l'action, à devoir mettre en place des programmes autour de cette thématique des garrigues?
Exactement, c'est tout à fait ça, sachant qu'il y a un peu une urgence parce qu'il y a des menaces assez fortes comme la périurbanisation par exemple, qui est quand même une menace de plus en plus forte sur beaucoup de milieux, ou l'abandon agricole très important, les risques incendies, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec les grands incendies qu'il y a eu sur cette zone-là. Du coup, il y a vraiment une urgence pour agir, il y a des potentiels, il y a des gens qui ont envie d'agir, mais pour ça, il faut arriver à créer cette dynamique, et là, ce colloque a vraiment pour but de fédérer justement des chercheurs, des associations, des élus pour lancer cette dynamique et passer vraiment à de l'action. Et pour ça, il faut aussi que les décideurs soient dans le coup, d'où l'idée vraiment d'axer notamment pour les élus locaux et les collectivités territoriales ce colloque-là.
Alors le programme en détail de ce colloque est établi depuis peu. Alors pour donner envie aux auditeurs ou aux auditrices qui souhaiteraient suivre ce colloque qui aura donc lieu le mardi 7 décembre 2010 sur le site du Pont du Gard autour des Garrigues et plus précisément autour du pays des Garrigues, un territoire d'action, point d'interrogation, quel va être en détail l'ensemble des animations, ateliers, conférences qui seront proposées durant cette journée du mardi 7 décembre?
Alors du coup, on a prévu deux temps dans la journée. Donc le matin, ça sera plutôt des présentations d'ensemble qui posent vraiment les grandes caractéristiques du territoire des Garrigues, avec notamment une première présentation de quel sera le contenu de cet atlas des Garrigues qui est en cours de rédaction. Dans un deuxième temps, ça sera le CNRS, notamment le laboratoire du CEF, c'est-à-dire le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS, qui travaille depuis plus de 50 ans sur ce territoire des Garrigues, qui va nous dire en quoi cet espace a une responsabilité, notamment pour les aspects biodiversité. Une responsabilité nationale, voire internationale. Et enfin, on aura une présentation le matin d'un géographe qui va nous dire quels sont les ingrédients qu'il faut pour que un espace devienne vraiment un territoire d'action, un territoire de projet. Donc ça, c'est le matin, plutôt une approche assez scientifique. Et l'après-midi, c'est beaucoup plus dans de la discussion avec des ateliers d'échange, 5 grands ateliers. Donc il y a un premier atelier qui est autour de l'éducation à l'environnement, un outil pour l'appropriation des garrigues. Un deuxième atelier qui sera sur quel avenir pour l'agriculture en garrigues. Un troisième qui est sur générer des nouveaux usages de loisirs sur ces zones de garrigues. Un quatrième sur le patrimoine bâti et la pierre sèche, enjeux et menaces. Et un cinquième qui est plutôt vraiment sur la périurbanisation. L'idée de ces ateliers, c'est non pas de régler toutes les problématiques là-dessus, mais d'essayer de voir quels sont les grands chantiers à mener dans les années à venir sur ces problématiques-là. Et lors de la synthèse de ces 5 ateliers de l'après-midi, on aura une clôture justement par le président du Conseil général du Gard qui justement, au vu de ces grands chantiers, apportera plutôt un discours politique vis-à-vis de cette réflexion-là.
Un démarrage à partir de 9h30, je crois, ce mardi 7 décembre, pour ce colloque Garrigue, regard croisé, le pays des Garrigues, un territoire d'action. Quelles sont les personnes qui participent généralement à ce type de colloque? Je veux dire, quel est le public présent, ou du moins qui est curieux pour aller suivre ce qui peut être dit, présenté, ce que l'on peut voir durant ces colloques?
Alors c'est un public très large, hein. Ça a énormément de notamment d'associations, hein, de, autant d'éducation à l'environnement que de patrimoine, mais aussi tout un tas d'habitants qui se préoccupent de l'avenir de l'endroit où ils vivent et d'usagers, ça peut être des randonneurs, des promeneurs, mais qui sont impliqués justement dans le paysage change, ça bouge, et surtout qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que c'est bien joli de dire, de râler du fait que ça bouge, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme action là-dessus. Donc là, vraiment, ce colloque a cet objectif d'être dans de la proposition, dans de la construction de l'avenir, quoi.
Alors là, on se situe avant la réalisation de ce colloque. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez déjà des attentes ou du moins des idées sur des choses qui pourraient naître durant ce colloque?
Disons que c'est aussi pour le collectif des Garrigues une étape importante, c'est-à-dire qu'après ce colloque, c'est un peu une reconnaissance de ce travail fait depuis plusieurs années par les écologistes de Lezière, mais aussi par toutes ces autres, notamment associations qui sont autour. Et du coup, on espère en tout cas que ça prendra une plus grande ampleur et que c'est plus de résonance, notamment au niveau des décideurs.
Cette envie que ce projet soit aussi porté par les politiques, donc je suppose, là on parle des collectivités territoriales, départements, régions également peut-être aussi.
Effectivement, parce que il faut bien se dire que pour passer vraiment à de l'action, il va falloir une implication des collectivités territoriales qui ont en but la gestion de ces espaces. Et pour ça, il faut qu'ils vraiment ils réalisent que on a du potentiel, que ces espaces-là, ça peut être vraiment une... La qualité de ces espaces-là, le maintien de la qualité de ces espaces-là, ça peut être une plus-value pour l'avenir. Et du coup, effectivement, que les communes, les communautés de communes, le conseil général, le conseil régional s'approprient ces problématiques-là, et pour nous, signe d'avenir justement plutôt positif pour ces projets, pour ce territoire des Garrigues, quoi.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'avenir des Garrigues, eh bien allez voir ce colloque Garrigues, regard croisé, le pays des Garrigues, un territoire d'action, qui va donc se dérouler mardi 7 décembre 2010 sur le site du pont du Gard, côté rive gauche, un colloque organisé par le collectif des Garrigues, l'association Les Écologistes de Lezière, avec le soutien du site du pont du Gard. Merci à toi Manuel, et puis bonne continuation sur ce projet des Garrigues. Au plaisir de te recroiser dans le cadre de cette émission L'eau à la bouche.
Merci et au revoir.
Pour rappel, voici les coordonnées de l'association Les Écologistes de Lezière. Pour avoir plus d'infos sur le programme de ce colloque intitulé Garrigues en regard croisé, qui se déroulera le mardi 7 décembre prochain sur le site du pont du Gard à partir de 9h30, un numéro de téléphone 04 67 59 54 62. Je répète, 59 54 62, ou leur site internet www.ezier.org. Et puis enfin, d'autres rendez-vous, cette fois-ci proposés par l'association Demain la Terre, basée à Gignac. Samedi 20 novembre à Pouzol, tout proche de Gignac, visite d'une maison proche de l'autonomie énergétique et découverte de ses petits trucs et astuces, une éolienne dans le jardin, un chauffage central solaire ou encore un poêle à bois et des panneaux photovoltaïques. L'intervenante s'appelle Sylvie Le Breton, c'est la propriétaire de cette maison. Visite de ce lieu le samedi 20 novembre de 14h à 16h30, c'est à Pouzol. Et puis une autre sortie proposée par l'association Demain la Terre, intitulée Volcan du Salagou, samedi 4 décembre prochain de 14h à 17h. Une balade à la rencontre des volcans oubliés dans la vallée du Salagou. L'intervenant Claude Lesclingan de l'association LAV. Quant aux pauses musicales, elles étaient signées ZX avec des extraits de leur dernier album intitulé Catch My Shoe. ZX en concert dans l'Hérault, précisément à Gignac. Un apéro patio avec ZX est proposé le dimanche 21 novembre prochain à partir de 18h. C'est la fin de L'eau à la bouche. À bientôt.